Et vous écoutez France Culture. Chaque jour, je me demande comment je vais pouvoir raconter ce que je veux raconter. C'est cela qui me fait continuer comme de gravir une montagne sans jamais atteindre le sommet. Daniel Clowes, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui aura donc rendez-vous ce soir avec le Sisyphe de la bande dessinée américaine Daniel Clowes, une interview d'Antoine Guillot, évocation dans la foulée du Temps des Badus, Nocturama de Bertrand Bonello, récemment sorti en DVD, une émission que nous conclurons avec le singulier Joseph Farrell, dessinateur mauvais genre s'il en fut, une découverte et une cause, faite et défendue par le maître Christophe Beer. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre qui commencera et se clôturera, vous l'avez noté, par de grands dessinateurs, Daniel Clowes et Joseph Farrell, et entre les deux, bien, cinéma avec notre camarade Philippe Rouillet que je salue.
Bonsoir François.
Quoi de neuf Philippe Rouillet?
Mais pas grand chose, tout va bien, assure, peut-on dire qu'on a rencontré une prochaine intervenante de Mauvais genre, mais on garde ça pour plus tard.
On garde encore un petit peu le secret, mais vous verrez, c'est assez spectaculaire. Je suis avec Antoine Guillot, bien évidemment. Comment va-t-il ?
Eh bien, il va bien, François.
Quoi de neuf sur le front du graphisme ?
Eh bien, du neuf avec du vieux, puisqu'on va faire de la rétrospective sur une œuvre très très importante et très influente de la bande dessinée contemporaine, qui est celle de Daniel Clowes. Vous avez encore quelques jours pour aller l'admirer à la Galerie Martel, l'excellente Galerie Martel à Paris.
Et à défaut de l'admirer, vous pouvez acheter des livres chez Cornelius, notamment le dernier qui s'appelle Patience.
Patience, il en a fallu de la patience pour les lecteurs de Daniel Clowes. 6 ans à attendre ce livre qui a pris 20 ans à l'auteur pour se réaliser.
Merci Antoine. Bonsoir Christophe Beer.
Bonsoir.
Christophe Beer qui est arrivé nanti d'un volume, riche volume, dont il est l'auteur et l'éditeur, faut le signaler. Mm-hmm. Alors c'est un peu la rubrique que nos collaborateurs ont publiée. Et vous nous apportez un personnage sidérant qui est à lui-même l'incarnation, l'élixir, la quintessence, la substantifique moelle du mauvais genre. Il s'appelle Joseph Farrell et on va le découvrir en fin d'émission. Mais avant cela, bien évidemment, ouverture solennelle de l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Avec vous, Céline Duchesnay, bonsoir. Et c'est
bonsoir.
Quelle lettre ce soir?
Eh bien, je vous propose ce soir la lettre L comme Lièvre. Pascal Lièvre, artiste et co-commissaire de Her Story, une exposition sur les féminismes d'aujourd'hui.
Alors j'ai présenté l'an dernier à l'Espace Croisé, qui est un espace vidéo, donc un grand lieu. J'ai présenté une œuvre qui s'appelle Rêver l'obscur, qui reprenait un titre d'un livre de Starhawk, qui est une féministe que j'aime beaucoup, et qui montrait une installation vidéo sur 6 grands écrans. C'est comme le lieu était très grand, on était vraiment immergé par rapport à la taille de ces écrans très très grands, qui montrait simplement un doigt, mon doigt, qui traçait dans de la paillette noire des noms de féministes du XXe siècle. J'avais choisi 100 noms, déjà. Et donc, on voit mon doigt qui trace les noms, et puis, quand mon doigt a terminé de tracer le nom, de la paillette noire tombe, ça recouvre le nom, comme le nom disparaît. Et puis, mon doigt réécrit un autre nom. Et donc, il y avait 100 noms de 100 femmes qui, à travers le monde, au XXe siècle, avaient porté des paroles féministes. Et c'était vraiment ma première grande pièce où je me confrontais à cette notion de l'histoire et de l'invisibilité des femmes. Comment se fait-il que toujours les femmes disparaissent dans l'histoire au bout d'un moment et que restent toujours ceux qui font l'histoire, c'est-à-dire les hommes.
Pascal Lièvre est féministe et voilà plusieurs années maintenant que cet artiste s'est immergé dans la parole, les écrits et les actions militantes des féministes pour y puiser matière à réflexion et matière artistique. En compagnie de Julie Crène, historienne de l'art, il a souhaité faire entendre les voix féministes d'aujourd'hui, hommes, femmes et transgenres du monde entier, et ça donne une exposition intitulée Her Story, des archives à l'heure des post-féminismes, à voir en ce moment et jusqu'au 19 mars à la Maison des Arts, Centre d'art contemporain de Malakoff. Soit 30 vidéos glanées sur Internet, traduites du chinois, du russe, de l'arabe, pour ne citer que ces langues, présentant des extraits de conférences, des clips militants ou encore des chansons, comme celle de la sorcière américaine Starhawk.
Alors Starhawk est une écoféministe. L'écoféminisme a été inventé par Françoise Dobos dans les années 70, mais Starhawk donc a très très vite fait un lien entre féminisme et écologie. Elle a donc commencé par des écrits, mais aussi par des actions. Et puis elle a commencé aussi à créer des groupes de sorcières, donc de femmes qui se retrouvent dans la forêt et qui sont liées ou qui, par des rituels, par des chants, qui sont dans la nature et qui, pour elles, établissent réellement un lien entre ce combat féministe et ce combat de l'écologie. Et dans les vidéos qu'on présente, il y a notamment un rituel qui s'appelle le Spiral Dance, la spirale, la danse de la spirale, où on les voit toutes quasiment en mauve, faire une sorte de spirale en chantant des chansons qui convoquent ou qui évoquent la déesse mère.
Lady, lady, lovely lady, are you from an ancient star? Lady, lady, blessed lady, come to us from where.
L'exposition Her Story des archives à l'heure des post-féminismes se tient en ce moment à la Maison des Arts, Centre d'art contemporain de Malakoff, à voir donc jusqu'au 19 mars 2017. Et à noter que chaque samedi, les commissaires d'exposition Julie Crène et Pascal Lièvre reçoivent et interviewent en public des artistes sur le thème des féminismes. Alors samedi prochain, par exemple le 4 mars, on attend Orlan, Esther Ferrer, Myriam Metcheba et Myriam Mihindou. Et pour plus d'informations, eh bien, il y a le site internet www.maisondesarts.malakoff.fr.
Qu'on a entendu là, c'était quoi exactement? Parce que j'ai trouvé ça fait ressembler à des incantations indiennes ou à des chants gallois. Enfin, ma connaissance des deux éléments étant assez réduite, je trouve que ça m'a côté comme ça folklorique.
C'est entre les deux. Ce sont des incantations de féministes, de cette américaine qui en fait est une sorcière et qui fait partie aussi. Vous savez, il y a eu ce mouvement, le mouvement des sorcières aux États-Unis dans les années 70, qui a été très important et puissant, qui existe toujours aujourd'hui. Et c'est le chant qu'on a entendu, un chant de Starhawk, avec tout un tas de femmes autour d'elle, et puis ça, elle forme des spirales comme ça, des cercles, et c'est surtout des chants qui s'adressent à la déesse mère, je dirais, à la nature.
Ça correspond aussi à cette volonté des féministes de revendiquer comme une fierté ce qui était avant déploré comme une stigmatisation, c'est-à-dire la sorcellerie, la femme brûlée, la jeteuse de sorts, la femme solitaire. Là, on en fait une fierté.
Voilà, et quelque chose qui est en lien avec la terre aussi, très important.
Voilà, le Witch Pride. Très bien, très bien. Eh bien, merci Céline pour cette entrée donc féministe, Lièvre donc, elle, de l'encyclopédie, Pascal Lièvre de l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Maintenant, on va s'intéresser à une autre forme de féminisme. Celui de Daniel Close.
You break me every time, but I know what is real. You think that all humans just don't know how to feel. You kick around citizens who don't know what is real. You deal with people's heads, they don't know where they go. And each time that you kill the brain, you begin to see me.
Daniel Close, donc à la fois un album patient chez Cornelius Antoine Guillot et une exposition, et donc l'occasion de rencontrer ce personnage, alors très mauvais genre, très prestigieux et très mystérieux.
Oui, très mystérieux d'abord parce qu'en France, il n'y avait jamais eu d'exposition de son travail. Il y a eu une grande exposition rétrospective aux États-Unis. Ça a été un événement là-bas qui s'appelle Modern Cartoonist et qui est revenu donc sur cette carrière assez exceptionnelle de Daniel Close depuis ses premiers comics, la série 8-Ball, qui était influencée à la fois par Crumb et par les super-héros à la Steve Ditko ou Jack Kirby. Et c'est un grand peintre de la solitude contemporaine, de l'aliénation, de l'angoisse de faire les mauvais choix. Et c'est tout ce que raconte Patience Patience. Patience, donc bande dessinée de science-fiction. Il est question de voyage dans le temps et comment revenir dans le passé pour réparer ses erreurs avec tous les paradoxes temporels qu'on imagine. Mais c'est une science-fiction un peu low-fi. On est presque dans le Chris Marker de la jetée. Oui, c'est tout à fait tout bouleversant bien. Avec son héros qui est une sorte de tough guy à la Lee Marvin ou James Coburn et qui est un fantôme de son existence puisque quand on doit éviter d'altérer trop le passé, ben on passe son temps juste à être une sorte de voyeur de ce qui aurait pu advenir. C'est très très troublant, très mélancolique comme bande dessinée, mais c'est aussi une œuvre rétrospective palimpseste où il retourne sur tout son passé. Donc c'était l'excellente occasion de le rencontrer, hein, l'auteur de Ghost World, de Lloyd Llewellyn, de Wilson, et puis ce premier livre qu'il avait fait découvrir en France déjà aux éditions Cornelius, Comme un gant de velours pris dans la fonte. Alors à la Galerie Martel, on voit tout ça. On voit beaucoup d'études préparatoires, on voit des travaux sur le cinéma aussi, puisque c'est lui qui avait écrit le scénario de Ghost World, le film. Il a aussi illustré des jaquettes de DVD et c'était l'idéal, donc, pour parler de son œuvre, d'être... Vous pouvez écouter cette émission, aller à la Galerie Martel, réécouter cette émission pour avoir le commentaire sur ce que vous venez d'entendre, pour commenter à la fois des étapes préparatoires, comment on articule du texte et du dessin, sans trop en dire, dans un sens comme dans l'autre. Voilà, Daniel Clowes ressemble à ce qu'il dessine.
Eh bien, on va l'écouter donc avec une traduction de Xavier Combes. Daniel Clowes, à votre micro, Antoine Guillot.
Daniel Clowes, nous sommes ici à la Galerie Martel, dans l'exposition qui vous est consacrée. On va commencer par deux dessins préparatoires qui sont présentés l'un à côté de l'autre. Il y a le dessin préparatoire pour la couverture de Patience et celle pour l'intégrale de 8-Ball. Vous avez fait ce travail de réédition de ces comics de 8-Ball en même temps que vous faisiez Patience. Comment l'un s'est articulé avec l'autre?
Ceci, je l'ai fait avant de travailler sur Patience. Par ailleurs, j'ai eu une rétrospective dans un musée. Et là, j'ai mis en place tous mes anciens travaux. Je me suis plongé dans mes vieilles créations et je me suis posé la question de savoir comment je suis passé d'un homme de 25 ans qui faisait des comics jusqu'à cette version plus âgée de moi qui essaye de trouver une nouvelle forme de comics. D'où, évidemment, l'inspiration d'origine pour cette histoire.
Comment est-ce que vous regardez vos anciens travaux? Est-ce que c'est un peu comme un journal émotionnel où vous retrouvez l'homme que vous étiez à l'époque?
C'est comme lire un journal intime que l'on tient au jour le jour. Et je me souviens exactement de l'endroit où j'étais lorsque je faisais tel ou tel dessin. C'est comme si j'entendais à nouveau la musique que j'écoutais à la radio. Et je vois tous ces petits événements que j'ai intégrés dans le comics et que j'avais complètement oublié. Des véritables événements que j'ai vécu, des blagues avec des potes, et des sortes de tranches de vie qui sont mises côte à côte dans l'œuvre de fiction. Donc ça m'a submergé de souvenirs. C'était assez onirique. On voit l'ensemble de sa vie défiler sous vos yeux en l'espèce de 3 ou 4 heures. J'ai tout lu.
Le personnage de Jack dans Patience va essayer de corriger le passé. Est-ce que vous, quand vous voyez d'anciens travaux, vous vous dites, tiens, je referais bien ça, j'aurais dû faire ça autrement?
Oui, absolument. La première motivation, c'était de tout reprendre depuis le début et de redessiner toutes les planches. Il y a des artistes qui ont fait cela. Ils ont voulu refaire tous leurs albums et détruire toutes les copies existantes.
Hergé l'a fait.
Oui, tout à fait, oui. Et je dois dire que c'est très séduisant comme démarche, mais on ne fait rien de nouveau quand on fait ça. C'est une action assez obsessionnelle. Et puis, de toute façon, à notre époque, on ne peut rien cacher de ce qu'on a fait dans son passé. Moi, il y a des comics que j'ai faits quand j'avais 15 ans. À l'époque, je savais que personne ne les verrait. Donc, j'avais aucun problème de me lancer là-dedans. J'étais pas du tout inquiet. Mais aujourd'hui, les gens, ils achètent ça sur eBay. Ces trucs-là existent encore et me hantent.
Est-ce que vous étiez plus tranquille à faire vos dessins en vous disant que personne ou que très peu de personnes allaient les lire, alors que quand vous faites Patience, vous savez qu'il y a beaucoup de lecteurs qui vous attendent et que 5 ans, pour eux, c'est très long, il leur faut beaucoup de patience.
Ça devrait être le cas. Mais J'ai toujours su me dissocier de ce que pourraient penser les autres. Et je me dis toujours que quoi que je fasse, personne ne verra ce que je fais. Ce que je fais n'existe pas. Je travaille dans un vide, en quelque sorte. Et puis, une fois que j'arrive vers la fin, là, je me dis, oh là là, ça va sortir, il y a des gens qui vont faire des critiques, des commentaires. Et là, c'est la panique. Mais jusqu'à la fin, je ne suis pas du tout conscient de ce qui se passe. Alors,
si on regarde à droite dans la galerie Martel de ce grand dessin de Patience, nous avons un dessin de femme, juste son visage, taille réelle, c'est le personnage de Patience qui nous regarde. Et c'est très caractéristique de votre style, Daniel Clauss. Très souvent, quand on lit vos livres, il y a des personnages de face qui nous regardent. Qu'est-ce que vous essayez d'obtenir comme émotion chez le lecteur quand vous faites ces dessins-là ?
Quand j'étais à l'école d'art, on disait il ne faut jamais dessiner comme ça, parce qu'on n'a pas de définition des traits, tout est aplati si vous faites des visages de face qui vous regardent. Mais moi, je ressentais là-dedans quand même une forte puissance. On est confronté à un personnage qui vous regarde, vous lecteur. Je suis dans ce personnage et je regarde le lecteur. Et ce sentiment-là est assez primal, c'est très fort sur le plan émotionnel. Un angle de 3 degrés pourrait tout changer. Il faut être vraiment de face pour obtenir ça. En fait, c'est assez difficile à dessiner. Mais bon, moi je l'ai fait des milliers de fois, comme vous le savez. Par conséquent, j'ai appris un peu comment il fallait s'y prendre. Je pense que c'est un petit peu mon apanage, c'est un petit peu ma caractéristique, si vous voulez. Je n'ai pas peur d'employer cette technique ou cet effet. Je me dis que ça fait partie de mon travail.
La question du regard est très importante dans votre travail, graphiquement, comme on vient de le voir, mais toute l'histoire de Patience, c'est une histoire de regard, d'un personnage qui va regarder l'autre sans toujours qu'il le sache. C'est une de vos préoccupations principales, comment on regarde les gens et comment on est regardé par les autres.
Oui, vous voyez juste. Et c'est un des grands pouvoirs des comics. On peut dépeindre le monde de manière apparemment objective. Moi, mes planches dépeignent la réalité et il n'y a pas de filtre du truchement d'un personnage. Dans le texte, les dialogues, les pensées, eh bien, il y a des choses qui sont très spécifiques au personnage. Et ça, on ne peut pas le faire dans la prose, même au cinéma. On peut se plonger dans l'intérieur d'un personnage et l'extérieur vous montre l'intérieur. Et il y a une espèce de confrontation entre les deux. Et c'est là que réside l'intérêt du récit. C'est là que les choses sont en mouvement, une espèce d'étincelle.
Et souvent, effectivement, il y a une contradiction entre ce que vous montrez à l'image et ce que disent ou pensent les personnages. Est-ce que vous commencez par les images ou par le texte des personnages qui rentrent souvent en contradiction l'un avec l'autre ?
Non, je travaille tout en même temps, mais à vrai dire, je me plonge dans l'esprit du personnage. J'essaye d'imaginer le monde par les yeux du personnage. Donc, j'écris ce que voit le personnage, en quelque sorte. Et à mesure que je dessine, je me dis, bon, alors qu'est-ce qui se passe là ? C'est ci, c'est ça. Donc, vous voyez, ça progresse comme ça. En toute honnêteté, j'essaye de montrer ce qui se passe. Plutôt que de simplement confirmer ce que pense le narrateur.
Alors, juste à côté, nous avons un dessin préparatoire de l'affiche du film Ghost World par Terry Swigoff. Et puis, encore à côté, une affiche pour le Shock Corridor de Samuel Fuller. Là-bas, il y a The Naked Kiss. On sait que vous êtes un grand connaisseur de l'histoire de la bande dessinée, mais quel est votre rapport au cinéma et à la cinéphilie ?
In comics, I feel like pour faire des comics, j'ai l'impression qu'il faut que je comprenne tout de l'histoire des comics pour éviter les erreurs du passé, en quelque sorte. Au cinéma, je me permets d'être plus sélectif. Là, je peux me vautrer dans les domaines que j'apprécie le plus. J'ai fait ça pour le film de Sam Fuller parce que Criterion, la société nous a dit, il faut qu'on vous trouve un projet, ils m'ont proposé ces films-là. Bon, je n'étais pas particulièrement fan, moi, mais je me suis dit, bon, allez, on va faire ça, faute de mieux. Et puis, ils m'ont dit quand même, allez, ce projet de Sam Fuller, ça vous intéresse ou pas? Bon, à vrai dire, c'est un de mes réalisateurs préférés, Sam Fuller. C'est comme s'il était le Jack Kirby du cinéma. Il est d'une créativité et d'une folie sans limite. Voilà un homme qui n'a pas tourné une seule minute ennuyeuse. Tous les instants de ses films sont intéressants, passionnants. Vous êtes accroché à l'image et puis on ressent de véritables émotions dans ses films. Donc, en fait, j'étais passionné de pouvoir travailler sur ce projet. Et The Naked Kiss, bon, j'ai regardé les deux films 25 fois, et puis je les ai aimés de plus en plus. Non, c'était très très chouette, je voudrais pouvoir le refaire.
Samuel Fuller était aussi un grand indépendant d'Hollywood. Vous avez collaboré à des films, j'imagine que vous vous sentez mieux tout seul sur votre table à dessin que quand vous êtes dans le processus collectif de fabrication d'un film.
Oh yeah, I mean, oh oui, for Sam Fuller to make the films that he did in the world that he had to make them in.
Sam Fuller a donc fait ses films.
Amazing.
C'était un homme étonnant. Moi, je n'ai aucune des qualités permettant de me faire financer pour des films insensés. C'est pour ça que j'aime tant le support des comics, parce qu'il faut que j'achète quoi ? Des feuilles de papier, il faut que j'aie une table pour dessiner, et à partir de là, je peux penser, créer mes petites choses à moi, et sans la contribution de qui que ce soit. Je fais tous mes comics seul. Personne ne lit quoi que ce soit avant que j'aie fini.
C'est vrai que vous n'avez pas montré une seule planche de patience pendant 5 ans, vous avez besoin d'éviter tout conseil extérieur, toute influence.
Alors,
les gens viennent dans mon atelier, ils voient les feuilles, je les laisse feuilleter, mais je ne laisse personne lire l'ensemble de ce que je fais. Et les gens n'ont aucune idée du sujet des comics quand ils feuillettent les choses. Et c'est toujours drôle quand au bout du compte, ils arrivent à lire l'album terminé parce qu'ils se sont fait une idée fausse. Ils ont vu deux planches, alors ils se disent, bon, c'est ça, mais en fait, ils ont tort. Si la critique était positive ou négative, je serais totalement obsédé par ça et je ne pourrais pas travailler. Je partirais en vrille, ce n'est pas possible. Donc je préfère travailler seul, arriver à la fin et puis mon épouse le lit, puis elle peut me dire des choses comme « qui c'est ce personnage-là » et puis cette partie-là était ennuyeuse. Bon, alors à ce moment-là, je reprends les choses, mais une fois que j'ai tout fini, mais il faut absolument que j'arrive à terminer l'album sans l'influence de qui que ce soit.
Est-ce que quand vous écrivez une histoire, au fur et à mesure que vous la réalisez, l'histoire peut bifurquer, prendre une autre direction, simplement parce que les personnages vous commandent presque de le faire?
Oh, yeah,
ah bah oui, ça arrive tout le temps.
I hate to make jazz metaphors because that's extreme.
Je déteste les métaphores de
really
jazz.
It really is the kind of thing where I have cliché, a sort of a framework.
J'ai un cadre.
Et
dans ce cadre, je me fais une idée de ce que va être le récit, mais je me permets d'improviser dans ce cadre. Parfois, j'improvise tellement que je suis complètement hors cadre, et puis je pars dans tous les sens.
Mais
quoi qu'il en soit, j'ai besoin d'avoir la structure en tête à mesure que j'avance. Il ne faut pas que je perde de vue de ce que je fais. Il faut que ça avance, que le récit progresse. Il
ne
faut pas que ce soit la préoccupation principale, mais il faut que ce soit quand même le moteur qui vous fait avancer.
Puisque vous employez la métaphore musicale et celle du jazz, il y a beaucoup de rythme dans votre travail. Dans Patience, c'est très frappant. Et il y a des moments où il y a une seule case, une immense page, double page. Et puis des moments où la narration se resserre, plusieurs petites vignettes. Vous le faites à l'instinct, ces ruptures de rythme, ou c'est très prévu?
Oui,
quand le lecteur tourne la page, je veux qu'il entende la grosse caisse ou le tuba, vous voyez. Dans les comics, on n'a pas le luxe d'avoir une bande-son. J'ai travaillé dans le cinéma et je vois très bien la grande différence qu'il y a entre les passages avec et les passages sans musique. C'est une différence indescriptible. Dans les comics, en revanche, il faut créer la musique. Donc on utilise des couleurs d'une certaine façon, on emploie le rythme, les planches sont juxtaposées et ainsi on peut créer les choses pour faire une sorte de musique.
Alors ici, on voit beaucoup d'œuvres en noir et blanc. La couleur vient ensuite. Mais est-ce que vous pensez à la couleur dès le dessin? Est-ce qu'à cette étape du travail, la couleur est déjà dans votre tête?
Patience, c'est le premier album où la couleur m'est venue dès que j'ai commencé à dessiner. Donc sur chaque page, je prenais des notes pour indiquer les couleurs. Et je me disais que c'était un univers pop art, psychédélique. C'est ça que je voulais dépeindre. Dans le passé, je n'ai dessiné qu'en noir et blanc. Et puis je pensais que j'allais m'en tenir au noir et blanc. Puis après, au bout d'un moment, je me suis lancé dans la couleur. Mais la couleur, c'est un petit peu comme si on ajoutait une bande-son après avoir tourné le film. Alors que là, je prends la musique d'abord et je l'intègre dans le film.
Cet aspect psychédélique du livre correspond à l'époque de votre enfance. Ce sont les images des années 60-70. Et pourtant, Patience correspond sans doute plus à l'âge que vous avez maintenant, avec le personnage de Jack, qui est plus âgé que les personnages que vous dessinez habituellement. Vous avez voulu aussi cette confrontation?
Oui, absolument. D'ailleurs, c'est drôle parce que je me suis plongé dans pas mal de travaux français des années 60, des Barbarella, des choses comme ça. Et c'était très intéressant de voir la culture pop américaine par le prisme de la sensibilité européenne. Comme moi, ces artistes ont extrait les éléments amusants, chouettes, et puis ils ont viré tout ce qui était un peu ennuyeux. Et bien souvent, ça m'a rappelé le film Alphaville. Là, il a pris tous les ingrédients du film noir et de la science-fiction sans pour autant aller au-delà de l'aspect superficiel du genre, vous voyez, sans engagement envers les conventions.
Alors, nous avons ici une image préparatoire de la couverture de Like a Velvet Glove Cast in Iron, le premier livre qui vous a fait découvrir en France. On a beaucoup parlé à l'époque d'un univers lynchien, d'une influence de David Lynch. Est-ce que vous entretenez effectivement une conversation avec son œuvre ou est-ce que c'est tout à fait fortuit?
Well, you know, it's funny, it was everybody always...
Ça, c'est bizarre. Il y a plein de gens qui ont dit que j'étais influencé par Twin Peaks. Mais en fait, c'est sorti plusieurs années avant Twin Peaks. Mais c'est passé inaperçu. C'était dans le domaine des comics. Puis le livre est sorti et entre-temps, Twin Peaks avait été lancé. Donc c'est assez rigolo tout ça. Mais la première fois que j'ai vu Eraserhead de David Lynch, là, ça a été une énorme claque pour moi. C'est comme si je voyais le monde comme je l'avais imaginé, comme j'en avais rêvé. Et je voulais que mon art, à moi, ait cette même impression, cette oppression, ce monde industriel avec cette qualité de film sur écran cathodique, vous voyez. Ça m'a beaucoup impressionné, ça m'a transformé, Eraserhead. Et ça m'a beaucoup influencé pour la suite de mon travail.
Vous avez déjà rencontré David Lynch? Vous avez pu échanger vos univers?
Quand j'étais nominé pour Ghost World aux Oscars, j'étais invité à un dîner. Et c'est un dîner où il n'y a pas de plan de table. On s'assoit, il y a des tables rondes et on s'assoit à côté de gens dont on ne sait pas qui ça va être. Moi, je m'assois. Et je regarde autour de moi, il y avait Albert Menzel, le grand réalisateur de documentaires, et David Lynch. Donc, bonne pioche, hein, le plan de table. Mais c'était coup de bol incroyable. Et mon épouse et moi, on était très inquiets. On était là avec David Lynch, on était très impressionnés. On buvait ses paroles, on voulait parler, mais on n'osait pas. Et puis au bout du compte, il s'est levé pour partir et mon épouse l'a attrapé par le bras et lui a dit « Vous savez, monsieur Lynch, vous êtes notre idole !» Il nous a regardé, il a dit « Ah ouais, trop bien !»
And that was kind of the perfect moment.
Donc c'était le moment idéal.
Dernière question, Daniel Clowes. Quand on demande à David Lynch d'où viennent ses idées, il dit que c'est comme la pêche. On met l'hameçon et on ne sait jamais ce qui va sortir. D'où viennent vos idées à vous? Ça vient de vos rêves? Ça vient de rêveries éveillées?
Well, I used to find it more mysterious, but then I learned that.
Au début, je pensais que tout cela était mystérieux. J'ai appris que ce qui vous traverse l'esprit, les conversations que l'on a avec soi-même, les petites répétitions que l'on se fait avant de se lancer, les désirs d'idées que l'on a, c'est ça, les idées qu'il faut travailler. Il faut les transformer en quelque chose qui peut vous permettre de raconter une histoire. Mais j'écoute mes propres obsessions, mais j'essaie pas de les éviter. Hein. S'il y a quelque chose qui me trouble, et je ne le mets pas de côté. Au contraire, je l'intègre et je le mets sur le papier.
Daniel Clowes, à votre micro, Antoine Guillot. On peut éventuellement faire des recommandations de lecture pour nos auditeurs qui auraient envie, sans le connaître, maintenant de le lire suite à cet entretien.
Bah alors donc lire Patience, hein, le dernier, tout voilà. Dernier magnifique sorti aux éditions Cornelius, comme tout Daniel Clowes chez Cornelius. Pour connaître la genèse de Daniel Clowes, il y a The Complete Eight Ball, donc la collection de tous ses comics dans lesquels il a expérimenté son art au début, et puis grand classique de grand classique, Ghostworld, voir le film, lire la bande dessinée dans un sens ou dans l'autre. Il y en a un que j'aime beaucoup aussi, c'est Le Rayon de la Mort. Le Rayon de la Mort, histoire d'un super-héros du quotidien qui trouve un pistolet qui lui permet de supprimer tous les fâcheux. Qui développe une super-force en fumant des cigarettes. C'est donc complètement dans l'air du temps.
Et c'est d'un mauvais genre accompli, merci.
Et Galerie Martel, c'est jusqu'au 11 mars. Voilà, dépêchez-vous.
Bah, dépêchez-vous, effectivement, on ne saurait trop vous inciter à y aller. Donc merci Antoine, pour cette première partie de Mauvais Genre sur France Culture consacrée à Daniel Clowes. On passe maintenant à la seconde partie de l'émission avec Nocturama, donc de Bertrand Bonello, qui sort en DVD chez Whiteside.
Tu crois qu'on va se faire choper?
C'est impossible. Plus rien sera jamais pareil.
Non, reste ici, on sort pas, tu le sais. C'est juste que je savais pas que j'étais capable de faire un truc comme ça. Et là, j'ai la trouille.
T'as vu que tu crois que je commençais à flipper?
Restez calme.
Nocturama de Bertrand Bonello, Philippe Rouillet. Monte à la barre.
Un grand plaisir de parler ce soir de ce film qui n'a eu aucun César hier et qui risquait pas d'en avoir parce qu'il n'avait aucune nomination.
Ah oui, c'est le meilleur moyen.
Jusque-là, c'était bien parti. Et puis, alors, on va parler du DVD parce qu'il n'y a pas de Blu-ray.
Voilà.
Tout ça parce qu'effectivement, le film n'a pas été vu en salle, très peu. Il y a eu une grosse controverse dans la presse, mais malheureusement, le public n'a pas tellement suivi la controverse parce que pour discuter d'un film, il faut le voir. Et les gens n'ont pas eu envie parce que je pense que beaucoup de gens se sont trompés sur le sujet du film. C'est-à-dire que les gens ont cru que c'était un film sur des attentats. Évidemment, ça rappelait cette brûlante actualité dans laquelle on est toujours. Or, pas du tout. Je veux dire, ce film n'a rien à voir avec Daesh. Il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas de faire un film sur des attentats, il s'agit d'un film sur la jeunesse. Et une certaine jeunesse qui est complètement désorientée par rapport à notre société. Et donc, l'idée du film vient à Bonello en 2010. Donc, il y a un moment, c'est au moment où il fait un autre film de groupe qui est la Polonide, qui est, vous souvenez, Souvenir de la Maison Close, ce film assez formidable dans les bordels, et qui est aussi son premier film historique en costume. Et pendant qu'il l'écrit, il a besoin de contemporains. et il se dit qu'il va écrire, il va commencer à écrire en parallèle un sujet contemporain, et tout de suite il a envie de parler de quoi ? De la jeunesse, pas celle des maisons closes de 1900, mais la jeunesse des années 2000, et de cet effet cocotte-minute qui sent dans la société, c'est-à-dire que cette espèce de tension, de pression, et lui vient l'idée d'un film qui serait en deux temps, un film politique où il n'y aurait pas de discours, où ce seraient les actes qui parleraient, et donc avec une première partie qui serait en mouvement et une deuxième partie qui serait plus statique, puisque ça nous donne quoi dans les faits ? Ça nous donne une première partie où cette bande de jeunes va décider de poser des bombes simultanées dans Paris en prenant des cibles symboliques. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de tuer, ça peut arriver parce que les choses ne se passent pas toujours comme prévu, mais l'idée est de viser des cibles où il y a personne dedans. Hein. C'est une tour de la Défense, c'est une partie du ministère de l'Intérieur, c'est la statue de Jeanne d'Arc, c'est une grande banque. Le seul qui est tué, c'est le patron de cette grande banque, mais là, c'est considéré comme un meurtre, il n'y a pas de dommages collatéraux, c'est pas une bombe, c'est un assassinat. Et dans cette bande de jeunes, ce qui est très intéressant, c'est que, un, ils n'ont pas de revendication, c'est une sorte d'expression de leur mal-être, et d'autre part, il y a tous les horizons et toutes les confessions, c'est-à-dire que ça va du jeune étudiant de Polytechnique dont le père au fonctionnaire est ami avec le ministre, au jeune beurre de banlieue. Et toute la première partie du film, qui dure trois quarts d'heure, nous permet de suivre cet après-midi-là, seconde par seconde, ces jeunes qui coordonnent leur action dans Paris. Donc il y a énormément de métro, de passage dans les rues. Le pari de Bonello, qui donne énormément de tension au film, c'est que il y a pas de trucage. C'est-à-dire que si vous êtes habitué du métropolitain parisien, vous reconnaîtrez les stations et que ça colle, quoi. Il y a pas, on s'est pas arrangé parce que telle station vous permet de tourner la nuit, je ne sais quoi. Il tourne réellement là où se passe l'action, et ça donne une espèce d'urgence très très intéressante. Et la musique, vous l'avez un petit peu entendue, elle fonctionne beaucoup par... c'est à la fois des nappes et des soubresauts, hein, et ça crée cette tension. Et l'idée, c'est qu'après ça, à 19h, tous ces jeunes doivent se retrouver dans un grand magasin parisien, une sorte de samaritaine, si vous voulez, où ils vont se faire enfermer après la sortie grâce à la complicité de l'un des leurs qui est gardien. Et ils sont censés attendre là pour voir et se répartir le lendemain. Alors, on dit toujours, et Bonello dit toujours, qu'il y a deux parties dans le film, donc cette partie en action qui est comme un thriller, et la deuxième partie dans le grand magasin, qui est cette grande nuit dans le grand magasin, qui serait comme un film d'horreur. Sauf que je nuancerais quand même ça en mettant, moi, deux parties très distinctes dans le grand magasin. C'est-à-dire qu'on a effectivement trois quarts d'heure qui sont les moments de sidération, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent là, tout le magasin est effectivement fermé, et ils se retrouvent dans ce monde qui recopie notre monde, c'est-à-dire que c'est un magasin où il y a tout, hein. Il y a tout, ça va du luminaire, de la nourriture, les meubles, les objets, la musique bien sûr, et le magasin devient un grand jukebox, et donc il s'agit de profiter de ça, et donc on a évidemment là une réflexion sur la société de consommation, mais qui est très intéressante au vu de la première partie, c'est-à-dire qu'on est face à des jeunes qui veulent détruire le système, qui s'en prennent à des cibles du capitalisme et qui finalement, quand ils se retrouvent dans un grand magasin, ne pensent qu'à une chose, c'est profiter de ce capitalisme-là. Et ça, c'est très très intéressant parce qu'on voit bien comment le film embarque toutes ces ambiguïtés. Et puis, il reste une demi-heure, parce que le film fait un peu plus de deux heures, et la dernière demi-heure, c'est le moment où la police les a repérés, on le sait grâce aux télévisions et ces chaînes infos, et à partir de là, même si tous ne le savent pas, c'est vraiment comment la fête est finie et comment tout ce qui pouvait devenir familier, fascinant dans les objets devient le cauchemar.
Antoine Guillon.
Avec ce plan absolument terrifiant qui pourrait être purement gratuit, où un des personnages va se retrouver face à un mannequin qui est habillé exactement comme lui. C'est-à-dire c'est un moment de vide, de zombification quasiment du personnage. J'ai évidemment beaucoup pensé aux zombies de Romero pour la partie qui se passe dans le centre, dans le grand magasin. C'est vraiment l'équivalent du centre commercial dans Zombie. Alors que la première partie, on est plus dans le cinéma de Jacques Rivette. C'est-à-dire qu'il y a un côté Paris secret, complot mystérieux, jeu de piste dans la ville où on ne sait pas trop trop ce que font ces personnes. Et la résolution du film avec ce montage très très étonnant de l'assaut du, des forces de la police qui est sans arrêt comme remixé, c'est-à-dire on a vraiment l'impression d'un, d'un
effet disque, disque rayé,
d'un disque jockey exactement qui va faire du scratch et repartir en arrière, c'est ces boucles électroniques qui montrent comment ils sont complètement pris dans ce système qu'ils prétendent et qu'ils veulent combattre et dont on peut penser qu'ils en sont au d'un moment l'expression ultime et la façon pour l'État de légitimer sa, sa violence d'État en produisant comme un grand magasin ses propres ennemis qu'il est très facile de détruire par la suite. C'est un film effectivement qui est passé je crois qu'il a été très mal compris.
Pour peut-être d'autres raisons de climat social et de situation historique.
Et aussi parce que le film a la richesse de ne pas marteler les choses. C'est-à-dire que c'est un film extrêmement ouvert. Antoine vient de vous en faire une lecture. On peut trouver d'autres choses. C'est-à-dire que les personnages sont extraordinairement ambigus. Et la caméra, qui n'est pas elle ambiguë, mais capte ces ambiguïtés-là. Et donc, on peut faire diverses lectures du film, parce que la réalité n'est pas une, elle n'est pas noire ou blanche. Et notamment, notre relation à ces jeunes est, est aussi très compliquée et travaillée par le film et par le plaisir du film. C'est-à-dire qu'y compris dans ses détracteurs, il y a des gens qui reconnaissent que le film est somptueux, fascinant, hypnotisant. C'est quand même très, très intéressant.
Mais je pense qu'il y a plus, ce qui a pu gêner, c'est que la mise en scène des attentats elle-même a une beauté plastique qui est quand même assez stupéfiante. C'est-à-dire voir le visage de la Jeanne d'Arc. Il y en a, il doit y avoir une quinzaine de statues de Jeanne d'Arc à Paris. Hein.
C'est celle de la place des Pyramides.
Des Pyramides, ce visage.
Honoré en, par l'Action française. Ce visage en droite nationale. Ce visage d'or. Des décennies.
Ce visage d'or qui brûle et qui fond est absolument, absolument stupéfiant.
Mais avec quand même deux parties vraiment différentes. La première, alors on parlait de Rivette, c'est tout à fait ça. On sent une influence de l'histoire des 13 de Balzac, de la conspiration du complot, avec presque du feuilleton de début de siècle. Et c'est filmé comme un ballet, les personnages vont dans des directions, on ignore leur motivation.
Moi
c'est vraiment chorégraphique. Et le deuxième est plus psychologique et plus, disons, l'analyse des individus, de ces mêmes individus qu'on a vus comme des billes dans un flipper au début.
Il est plus onirique en même temps, il est plus onirique presque que psychologique dans sa deuxième partie.
Parce que dans la première partie, le côté implacable et chorégraphique, vous avez raison François, m'a rappelé la filature dans le métro du Samouraï de Melville.
Oui, tout
avec
à fait,
un
oui.
côté extrêmement comme ça, carré et très palpitant. Et dans la deuxième partie, ce qui est extraordinaire, c'est que alors que ça devrait être la liesse, puisque finalement ils ont réussi à atteindre leurs objectifs, ils n'ont plus rien à faire. Et ils ne savent pas quoi faire. Et ça, c'est très intéressant d'être avec ces jeunes qui pourraient être... Ils ont quand même 10 copains qui viennent de faire un truc assez incroyable. Ils pourraient s'amuser, ils pourraient faire la fête, ils pourraient dormir. Mais finalement, ils sont à la limite de l'ennui et ils vont créer des activités. Alors, on essaye de faire des trucs un peu fous. On va conduire un kart dans le magasin ou on va prendre un bain. Alors, vous allez me dire prendre un bain. Mais si, mais prendre un bain dans un grand magasin, c'est quand même assez... Et il y a ce moment très beau de spectacle où un personnage fait une sorte de karaoké avec My Way et tous les autres apprécient ce spectacle et c'est une clé du film parce que c'est la dernière scène, j'allais dire, un peu agréable avant que l'étau se resserre sur eux et c'est lié à la notion de spectacle. C'est-à-dire que tout fait spectacle dans le film, c'est-à-dire que la société de consommation fait spectacle avec tous ces objets qui sont dans les vitrines et puis évidemment avec ces télévisions, ça nous renvoie à cette image de l'information continue et de la mise en scène puisque eux-mêmes se mettent en scène et quand ils sont dans le magasin, c'est pour se mettre en scène. Ils ont les costumes, ils les ont déjà, les costumes de marque. Mais il y a aussi d'autres qui vont prendre, parce qu'on va être comme Scarface, tout d'un coup, on va chercher des modèles, et c'est des modèles un peu cheap, quoi. C'est le rêve d'être une mariée et de faire sa nuit de noces. Enfin, c'est des choses assez banales. Et puis alors, le choix des musiques est assez passionnant avec pour la fin, et ça parle, je pense, beaucoup à Bonello, qui est la musique d'Amicalement Vôtre, la musique de John Barry pour Amicalement Vôtre, qui, vous vous souvenez sans doute, dans les années 80-90, c'était une musique souvent qu'on mettait dans les boîtes de nuit à la fin, quand la fête était finie, hein, pour se quitter. Et ça résonne très fort, d'autant qu'il y a cette mise en scène qui fait qu'on revient sans cesse au départ. C'est-à-dire qu'on voit une action, et puis on remet le disque au début, et on voit la même action sous un autre angle. Il y a une perspective presque cubiste du temps qui va clouter le vertige qui nous saisit quand on voit le film. Pour moi, c'était vraiment un des plus grands films de cette année.
Et qu'une définition c'est une définition du cauchemar aussi, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une scène d'horreur qui ne se finira jamais et dans laquelle on est en boucle. J'ai un petit regret moi sur le personnage de Clochard joué par Louis Rego qui me semble la partie un peu plus faible dans l'intervention de ce personnage qui ne me semblait pas très utile et presque justifié uniquement par un besoin scénaristique.
Merci messieurs.
C'est chez Wellside le DVD, voilà, on n'a pas encore dit. Bon, redisons-le, avec un bonus de 20 minutes de Bonello qui est pas mal, mais on aurait aimé plus de choses sur ce film, évidemment.
Interviewé par Jean-François Roger, donc à redécouvrir en DVD, donc Nocturama de Bertrand Bonello chez Wellside. Maintenant, l'heure est venue de nous intéresser à quelqu'un que l'on ignore, dont on ignore tout, l'étonnant Joseph Farrell.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Éclos, la fille dansante, pour ouvrir à l'univers de Joseph Farrell. Alors l'univers de Joseph Farrell, monsieur, on peut le dire totalement inconnu, et on peut maintenant le découvrir grâce à vous Christophe Beer et grâce à un livre dont vous êtes l'auteur avec Dominique Format et l'éditeur. Alors c'est un livre qui a requis tous vos soins, toute votre attention, tout votre amour, j'ai pas peur de le dire, qui contient à la fois des photos, de très abondantes reproductions des dessins au crayon à la mine de plomb de Farrell, et puis un texte où vous analysez à la fois l'univers de ce dessinateur et où vous témoignez aussi de vos rapports avec lui et d'un peu de ce qu'on peut savoir de sa vie, de sa biographie, enfin à la fin, une savante bibliographie. Alors, la parole est à vous, Christophe Beer, puisque j'ai annoncé en début d'émission que c'était la quintessence du mauvais genre, on peut le dire, c'est un dessin SM, c'est un dessin érotique d'une violence, d'une virtuosité, d'une intensité rarement atteinte. Alors, d'abord, ce Joseph Farrell, comment l'avez-vous découvert et qui est-il ?
Il n'est pas tout à fait inconnu, on peut dire qu'il l'est devenu maintenant, aujourd'hui, ou au moins qu'il a été méprisé ou ignoré je sais pas, de l'establishment. Enfin, c'est quelqu'un dont on parle peu, effectivement, mais il a eu un public pendant une bonne trentaine d'années de sex shop, en fait. C'est des livres, il y a une bibliographie à la fin du volume, effectivement, qui recense au moins une quinzaine d'albums. Les albums ont pour titre « Obéis sinon »,« Perversion »,« Jeux cruels », « Parfum de souffrance ». Et c'était donc des albums de 77 aux années 90, même 2000, qui était diffusé en sex shop ou dans des librairies très spécialisées, donc avec un public qui assez nombreux pour l'époque. Et effectivement, tout ça est un peu tombé dans l'oubli, peut-être aussi parce que aujourd'hui, ce genre de dessin et d'œuvre est un petit peu, je ne sais pas, dérangeante. Peut-être, on peut dire que c'est dérangeant, mais ça posait beaucoup moins de problèmes dans les années 80-90. Il y a trois albums qui ont été interdits sous le ministère de la Culture de Pierre Jox, socialiste, en 1984. Bon, mais c'était pas une volonté spécifiquement... Vous savez, avec la loi de 49, il y a eu des tonnes et des tonnes de choses qui ont été interdites. Souvent, on ne sait pas tellement pourquoi. Bon, c'est tombé à un moment donné sur trois albums sans véritable raison, en fait.
Alors rapidement, Christophe Beer, on pourrait consacrer toute une émission à Farrell, son parcours, sa formation, comment en est-il arrivé à concevoir cet univers et à devenir dessinateur qu'il est.
Il a dessiné très tôt, dès l'âge de 6 ans, il s'est mis au dessin. Et quand vers 18 ans, il a voulu prendre des cours, ça n'a duré qu'un mois. Les professeurs lui ont dit « Écoutez, on n'a rien à vous apprendre, vous savez déjà tout faire ». Donc c'est quelqu'un qui a toujours dessiné. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a toujours dessiné pour son plaisir, en fait. D'abord, c'est juste pour lui. Et il s'est mis au dessin SM au début des années 60, donc quand il avait 25-30 ans, il a commencé à mettre sur le papier toutes sortes de fantasmes qui l'habitaient. Et puis, il est fréquentant les réseaux de la rue Saint-Denis ou de Pigalle, il a fini par être connu de quelques amateurs. Et donc, il non pas gagnait sa vie, mais il arrondissait peut-être un petit peu ses fins de mois où il arrivait à vendre des dessins à des particuliers qui lui disaient « J'aimerais, est-ce que vous pouvez dessiner ceci ou cela ?» Et à un moment donné, quelques éditeurs de ce genre de réseau à Pigalle ont eu l'idée de faire ces albums au format à l'italienne que les amateurs les plus anciens connaissent. Et c'est comme ça que cette œuvre a émergé.
Donc, Une œuvre qui raconte un peu sa vie aussi, on peut le dire.
Il s'inspire, son SM n'a rien de... C'est pas histoire d'eau. Ce ne sont pas des donjons, des cryptes gothiques, ce ne sont pas non plus des histoires d'inquisition, ce genre de choses. Il s'inspire de ce qui est autour de lui. Il travaille ses fantasmes avec ce qu'il a sous la main, en définitive. Et il a dessiné parfois des voisines de palier, ça lui est arrivé. Enfin, et je pense que les hommes qui sont les bourreaux, puisqu'il s'agit de ça, hein, on ne l'a pas encore dit, les femmes souffrent chez Farrell et les hommes jubilent, et les femmes pleurent. Les hommes, ça c'est certainement, j'en suis à peu près sûr, parfois ils ont le visage du patron qui a dû le brimer, voilà. Parce que bon, sinon d'un point de vue professionnel, il a fait toutes sortes de boulot. Et sur le plan artistique, il lui arrivait de faire du faux marbre ou de peindre sur des façades, faire de la peinture publicitaire sur façade. Il lui est arrivé aussi de faire des prototypes de boutons pour dans le prêt-à-porter, voilà. Donc il lui est arrivé de travailler parfois un peu en tant que dessinateur, mais sinon toutes sortes de boulots.
Alors justement, toutes sortes de boulots, on va l'écouter, Joseph Farrell, vous l'avez rencontré, interviewé, et donc il nous parle d'abord de son art, selon le plan, je dirais, à la fois technique et artistique.
Vous savez, comme je dessine sur du 21-27, les visages sont assez petits, vous avez des visages qui sont pas plus gros que l'ongle d'un pouce. Hein, donc il me faut une énorme loupe qui est sur pied d'ailleurs, et il faut que je dessine les dents, les yeux, et si j'ai pas une mine de crayon extrêmement pointue, je peux pas dessiner. Vous avez des grands dessinateurs comme, pour ne pas le citer, Loïc Dubigeon, ils travaillent sur des planches énormes, sur des cartes à gratter. Moi, je ne me sers pas de ça. Des cartes à gratter, et il envoie carrément le fusain. Mais moi, je peux pas dessiner du fusain sur des feuilles en 21-27. Le visage, il faudrait que le visage soit aussi grand, rien que le visage, aussi grand que la feuille. Vous voyez, alors ça c'est facile pour celui qui travaille le fusain. Moi je travaille qu'à la mine de plomb, et c'est très fin et c'est très fatigant. Quand vous êtes penché pendant 8 heures sur un dessin, et puis des fois vous n'arrivez pas à obtenir l'expression que vous recherchez, eh ben il faut gommer et recommencer jusqu'à ce qu'on obtienne. Ah ça y est. Enfin, l'alarme, on voit l'alarme qui surgit, et bon, alors c'est bon, là je suis. C'est difficile, il faut pas croire que ça se fait comme ça. C'est pour ça que je dis, je suis un modeste petit dessinateur de merde, et c'est tout. Mais les gens adorent mes dessins, je sais pas ce qu'ils y trouvent, mais ils y trouvent certainement une grande excitation. La preuve, c'est quand il m'est arrivé d'aller dans les magasins, il y a des gens qui se sont aperçus que j'étais Joseph Farrell, ils m'ont demandé l'autographe. Oh, moi, ça me flatte un peu, quelque part, mais ça m'emmerde. Voilà. Si j'avais une érection, c'est que le dessin apportera quelque chose à quelqu'un qui a la même sensibilité que moi.
Joseph Farrel au micro de son hagiographe, on peut utiliser le mot, Christophe Beer. Céline Duchesnay.
On pourrait préciser, si on veut rentrer aussi maintenant dans le vif du sujet et décrire les dessins, que nous avons affaire à de véritables scènes de torture en permanence, avec des sévices au réalisme assez saisissant, et que ce sont toujours les femmes qui sont torturées. Alors vous avez parlé de leur regard, de leur visage qui était baigné de larmes. On peut parler aussi de tout ce qu'on leur fait subir. On leur torture les seins essentiellement, on les étire, on les allonge, on plante des aiguilles dedans, on les met dans des machines absolument, enfin dont je ne connaissais pas l'existence, d'ailleurs j'espère qu'elles n'existent pas. On leur perfore l'anus, on leur étire les grandes lèvres du sexe. Il y va fort au niveau des accessoires.
Il y a l'humiliation aussi, ne pas oublier l'humiliation.
Oui, ça va avec. Oui. Et c'était peut-être l'objet de ma question. Quand on regarde ces dessins-là, donc vous parlez de SM, il n'y a absolument aucun consentement mutuel, je dirais, entre la victime femme et le bourreau, qui est souvent un homme, mais pas toujours, parce que des femmes peuvent aussi être bourreaux. De même que parmi les bourreaux, on peut aussi trouver des enfants. De même qu'on peut aussi trouver des victimes parmi les enfants. Donc on est là face à quelque chose de complètement apocalyptique, presque, je dirais, en tout cas, de destructeur au niveau de la société.
Oui, tout Christophe à fait. Oui, mais quelle est la question là?
Alors, est-ce que le principe qui n'est pas du tout de consentement mutuel, que ça s'apparente quand même à du SM selon vous ou pas?
Du SM dans le fantasme. Bien sûr, Joseph Farrell ne ressemble pas à ses dessins, mais là, comme il fait œuvre de création, ce qui l'intéresse uniquement, c'est le non-consentement. Il y trouve là la plus grande excitation chez Farrell. Elle se situe là, sur l'absence totale de consentement. Il le disait à l'instant, donc il a besoin aussi d'avoir des érections pour dessiner. Il considère que s'il n'y a pas d'excitation de sa chez lui, le dessin n'est pas bon. Donc toute cette violence est source d'excitation. Maintenant, aujourd'hui, enfin, chacun peut recevoir les dessins un peu comme il l'entend. On peut aussi uniquement être sensible à une très très grande violence qui peut renvoyer à quelque chose de plus fort, qui serait une sorte de violence sociale.
Alors voilà, justement, il faut quand même s'interroger sur la scénographie de Farrell. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours une femme qui est soumise à des tortures totalement démentielles, enfin de type sadienne, avec chez Farrell un talent extrême pour arriver à capter sur le visage dessiné à la mine de plomb au crayon le sentiment de la honte, de l'humiliation mêlée à la souffrance. Là, il y a véritablement quelque chose de saisissant.
Et à l'épouvante aussi.
Et à côté, les spectateurs qui sont des gens qui sont... On a l'impression par moment d'être dans... Ça m'a fait penser à la famille de Michel Vaillant, moi, dans Spirou. Ils sont là, ils ont les bras croisés, et alors l'œil, il a aussi capacité à capter dans le regard des bourreaux et des spectateurs une espèce de sadisme insidieux, une espèce de plaisir vicelard, mais en même temps très très posé, très calme. C'est très étonnant. On n'est pas du tout dans une espèce de d'amplification lyrique du libertinage.
Non,
ils sont
pas,
là, ils regardent. Ils ont la même position que quelqu'un qui regarderait, je pense, un enfant jouer du piano, un chien s'amuser avec un objet ou un barbecue. Sauf que le barbecue, c'est une femme qu'on torture. Et je veux dire, c'est très étrange. Si on cache l'objet du spectacle et qu'on se concentre sur le regard du bourreau, il y a véritablement quelque chose qui est de l'ordre de la psychologie du sadisme. C'est un grand psychologue du sadisme.
Mais il est fasciné par le regard. Le regard est très important et d'ailleurs, les bourreaux ne semblent pas tellement s'intéresser à l'acte de torture. Ils sont souvent très attentifs au regard même de la victime, comme s'ils essayaient d'attraper une sorte de substance de terreur.
Exactement.
Et ça nous renvoie aussi à notre propre regard.
Ah,
que regardons-nous quand nous sommes en face d'un dessin de Farrell?
À découvrir donc l'univers de Joseph Farrell dans ce livre dont vous êtes l'auteur et l'éditeur, Christophe Beer. Tout renseignement sur notre site. Merci messieurs, merci madame. Pour ce mauvais genre de ce soir, je rappelle les sujets évoqués. Daniel Clauss, donc dernier album Patient chez Cornelius, et exposition encore pendant quelques jours à la galerie Martel à Paris. Chez Wildside, le DVD de Nocturama. Air Story, des archives à l'heure des post-féminismes, une exposition du 21 janvier au 19 mars, où Ousla, Céline Duchesnay, à Malakoff. Et puis, bien évidemment, l'univers de Farrell. Renseignements sur notre site.
Il y a un site, farrellartbook.com.
Tout à fait. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Pierre Montaigne, Claire-Martin Dugard, Chloé Leblond, Céline Duchesnay, Philippe Rouillet, Antoine Guillot, Christophe Bire et François Julier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain pour un autre Mauvais Genre. Je serai avec Pascal Horry, avec Céline Duchesnay et avec Philippe Rouillet. On parlera de jouir comme une sainte. Tiens, on retrouve un peu des thématiques équivalentes au Mercure de France. On parlera également de Borowczyk en coffret chez Carlotta. Et maintenant, Amaury Chardon, maître d'un mic. Bonsoir à tous.